What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great easy.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles, cinéfans du vendredi. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec subtilité et psychologie. C'est tout nous, ça. À l'affiche, aujourd'hui, du cinéma qui se pose une question fondamentale. Qui est-il? Qui est-elle? Avec nous dans le studio, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu du cinéma de Rosière, puisqu'il y en a quelquefois un autre.
Et oui, il y en a plusieurs.
Cathy. Bonjour Cathy.
Cathy. Oui, bonjour Sophie. Bonjour à toutes et tous.
Bienvenue. Et salut Olivier.
Vivi.
Vivi. Non, c'est une autre. Il y en a une autre, bon. Vivi. Mais donc,
bonjour tout le monde.
Olivier. Salut Olivier. Et Sylvain.
Bien le bonjour.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. On est là pour parler de quelques films. Dites-lui que je l'aime, Vie privée, L'inconnu de la Grande Arche, et puis deux documentaires qui seront projetés à Rosière, Le secret du loup d'Éthiopie, ça c'est en avant-première, et Une route à soi dans le cadre du festival Allô la planète. Et bien c'est parti, on commence justement avec de l'amour.
Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi.
Il est bouleversant son livre. J'ai envie d'en faire un film.
C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné?
Mais comment vous pourriez adapter ça? Il est 1h du matin. Je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier.
C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère.
C'est quoi, maman?
Je lis des trucs que ma maman a écrit. Dans ses cahiers, elle écrit: je suis née à Saïgon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus.
Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus?
On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet.
Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique.
Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans.
Dites-lui que je l'aime, de Romane Bohringer avec, on l'a entendu, Romane Bohringer, Clémentine Autain, bien sûr. Un film qui était en avant-première aux Rencontres des cinémas d'Europe, et Romane Bohringer est venue pour en parler. Et donc Cathy, tu peux, toi, nous en parler de ce film?
Oui, c'est un film qui est relativement original, on va dire, parce que sur la forme, si on commence par la forme, elle a vraiment mélangé les différentes formes cinématographiques, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans du documentaire, à la fois dans de la fiction. On a aussi des images d'archives, parce qu'il y a aussi des vidéos qui étaient prises à l'époque quand son père et sa mère étaient ensemble, donc très jeunes.
Donc là tu parles de Romane Bohringer?
Oui, Romane Bohringer. Je parle de la réalisation de Romane Bohringer sur Dites-lui que je l'aime. Mais en effet, tu as raison, Dites-lui que je l'aime, c'est un film de Claude Miller de 77 avec Dominique Lafin, qui était donc la mère, qui était actrice, et la mère de Clémentine Autain, qui a fait, elle, un livre sur sa mère, qui s'appelle « Dites-lui que je l'aime », et Enfin, Romane Boringer réalise un film où elle nous explique, hein, en tant que spectatrice, tout son process, quoi. C'est-à-dire qu'elle a commencé par la lecture de ce livre de Clémentine Autain en disant « mais c'est fou les similitudes, les résonances qu'il y a entre ce qu'a vécu Clémentine Autain et son rapport à sa mère et moi, ce que j'ai vécu avec l'absence de la mienne ou l'abandon de la mienne. » Et donc, elle va développer comme ça, à la fois un film dans le film, c'est-à-dire comment elle pense à réaliser. D'abord, c'est sa rencontre avec Clémentine Autain, les échanges autour de leurs mères respectives, comment elle voit, comment elle envisage la réalisation de ce film, qui pour interpréter, c'est-à-dire qu'on a aussi des actrices qui viennent passer des castings pour interpréter la propre mère de Clémentine Autain. Enfin, tout se mélange au bout d'un moment, c'est vraiment un film hybride. Mais très universel finalement sur la question de la parentalité, de la responsabilité, enfin, ou des mères défaillantes, mais pas que. C'est aussi une belle déclaration d'amour aux parents, aux enfants que l'on a et toute cette transmission-là qui est faite, quoi. Et donc, c'est un film qui peut-être être un peu clivant. Il va vraiment dans l'intimité. De à la fois de deux personnes, mais qui ont exposé, en tout cas pour Clémentine Autain, elle a quand même expliqué tout ce qu'elle a, enfin, toute la difficulté qu'elle a eue avec sa mère, hein. Il y a des scènes d'ailleurs qui sont reproduites dans le film, alors là, qui sont fictionnées, mais où elle se retrouve avec une mère, et elle explique elle-même, hein, une fois elle est allée récupérer sa mère à l'aéroport, qui était ivre morte, ils ont été obligés de l'amener, alors elle avait 10 ans, dans un chariot de bagages, parce qu'elle était incapable de faire un pas devant l'autre, enfin bref, il y a une scène aussi dans un hôtel-restaurant où sa mère veut encore boire et le bar est fermé. Elle fait tout un scandale parce qu'on lui sert pas à boire et elle est là pour enfin elle est là quoi en tant qu'enfant pour vivre la scène. Bon bref, il y a des choses très 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 dures comme ça, très complexes. Et c'est se mettre à nu, hein, aussi bien pour l'une que pour l'autre, face à ce qu'elles vivent et comment elles, finalement, avec leurs propres enfants. Et ce qui est amusant, c'est que Romane Boringer, dans son film, elle l'a tourné avec son fils et non pas avec sa fille, qui, elle, ne veut absolument pas entendre parler de cinéma. Donc, elle veut absolument pas être vue à l'écran. Par contre, son fils, lui, joue complètement le jeu. Et finalement, voilà, ça devient universel et ça devient quelque chose de rapport parent-enfant. Ça ne reste pas que mère et fille, en fait. Et c'est ça qui est beau autour de ce film, c'est que ça parle de cet amour-là, malgré tout, et du pardon qu'on peut, quand même engager, malgré le vécu. Difficile.
Et pourquoi tu dis que ça peut être clivant ?
Ça peut être clivant parce que la forme cinématographique est tellement hybride, tellement peut-être dérangeante par moment, mais je pense que c'est une façon, enfin c'est ce qu'elle nous a expliqué aussi, hein, c'était une façon pour elle de prendre de la distance. Elle a travaillé très longtemps sur le scénario, elle a été accompagnée aussi. On lui a aussi reproché de pourquoi son père n'intervient pas plus dans le film, mais on l'entend dans la bande-annonce, elle n'a pas eu aussi envie de lui poser toutes les questions que peut-être elle aurait aimé. Oui, elle va tellement dans l'intimité que c'était... que ça peut paraître clivant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver, et ça j'ai des spectateurs qui m'en ont parlé, qu'ils sentaient une forme de sincérité et en même temps il y a des scènes qui paraissent très, très téléphonées, très mises en scène, pas naturelles, quoi. Voilà, bon bref, donc c'est...
Ah oui, ouais, d'accord.
Aussi.
Ça désarçonne.
Ça peut désarçonner, voilà, ça peut un peu gêner. Et elle
est
très...
Vrai.
Voilà, exactement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce voilà. qui ne l'est pas. Mais c'est pas tant ça. C'est vrai que c'est le choix d'avoir vraiment voulu faire un film qui ne rentre dans aucune case, en réalité. Et moi, je pense qu'elle a très bien fait de le faire comme ça. Mais bon, après, chacun fera son propre avis. Et moi, ça m'a donné aussi envie de revoir ce film de Claude Miller avec Dominique Lafin, qui est vraiment c'était une belle et talentueuse actrice, fragile, bien sûr, comme on le sait. Mais j'ai des souvenirs d'elle dans différents films, et celui-là, j'aimerais beaucoup le revoir.
Qui était adapté, lui-même, ce film, d'un roman de Patricia Highsmith, Ce mal étrange. Allez voir, donc, dites-lui que je l'aime, c'est à Aubenas, et à partir du 19 décembre, ce sera à Rosières aussi.
Tout à fait.
Eh bien, on continue avec une autre histoire, d'autres questionnements.
J'ai pensé à quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux.
Oui.
Hein, ok.
Bon.
C'est à propos de ma patiente.
Sous le fond de tes oreilles.
C'est la troisième séance que vous avez raté sans prévenir, Paula. Au bout de trois séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle s'est assassinée. Mais par qui et pourquoi?
C'est la question.
Vie privée, bonne question, c'est ça. De Rebecca Zlotowski avec, vous l'avez entendu, Johnny Foster, Daniel Auteuil, et puis il y a aussi Virginie Efira, Mathieu Amalric. Olivier, tu as été voir ce film, est-ce que tu as été sensible à ce Cluedo psychanalytique ?
Sensible sûrement, parce que c'est vraiment un film sur la vie privée. La vie privée dans ce qu'elle a de plus privé, de plus intime, de plus secret même. Donc on a compris qu'une psychanalyste et psychiatre a perdu une patiente, Paula, qui ne prévient pas de son absence trois séances consécutives. Il s'avère qu'elle est morte. J'en dis pas plus parce que ça reste un film d'enquête. Et par conséquent, il est précieux que le spectateur
n'en sache rien.
Donc elle est morte en tout cas, et cette psychanalyste psychiatre jouée par Jodie Foster veut savoir ce qui s'est passé pour Paula, jouée par Virginie Efira, et qui est donc sa patiente. On a donc bien une enquête de vie privée. Une recherche sur les ressorts les plus intimes de la vie privée. Au bout d'un moment, on ne sait plus très bien de quelle vie privée on recherche les ressorts. Est-ce que ce sont les ressorts de la vie privée de Paula, qui est morte quand même de manière un peu énigmatique, on peut s'en douter, on peut le dire quand même. Si c'est la vie privée de son mari, à Paula, qui nous intéresse, Mathieu Amalric, on voit le personnage que peut jouer Mathieu Amalric et tout ce que ça peut avoir d'énigmatique, effectivement, ou de leur fille. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est aussi, peut-être surtout, une enquête sur la vie intime de la psychanalyste elle-même, et de son ex-mari, et de son fils, et de son petit-fils. Donc, tout ça se croise, toute une somme impressionnante de vie personnelle, privée, se croisent dans l'atmosphère d'une enquête criminelle qui se double par conséquent d'une enquête analytique. Alors évidemment, tout est en place pour donner un film passionnant et il manque peu de lettres. Effectivement, on a beaucoup d'éléments qui permettent, qui concourent, à la fabrication d'un film intéressant. D'abord, on vient de le voir, le casting, qui est luxueux, et ils font bien le job. Et justement, l'avantage, je crois, c'est que ces acteurs de haut vol donnent à des personnages multiples une épaisseur qu'ils ne pourraient pas prendre à l'intérieur du scénario s'ils n'avaient pas, eux, comme acteurs, cette présence particulièrement forte. Je pense à Daniel Auteuil, qui a finalement un rôle assez extérieur, périphérique dans un premier temps, et qui arrive à incarner ce personnage au départ périphérique. On a aussi une photographie que je qualifierais presque d'inspirée, parce que elle permet de traduire justement les vacillements de la vie intime à travers la photographie de reflets, d'images oniriques, d'images suggérées par l'hypnose, etc. Donc la photographie de ce point de vue-là concourt également à l'intérêt du film.
Avec, Avec un côté, attention, j'ai pas vu le film, mais un peu Hitchcockien. En tout cas, c'est ce que l'on suggère.
Alors justement, c'est un moyen de toucher les limites. Parce que ça, si ça veut être Hitchcockien, façon Vertigo ou Fenêtre sur coup, ou je sais pas.
Y a des clins d'œil explicites.
Oui, on fait pas une œuvre d'art avec des clins d'œil. Avec des clins d'œil, on fait des clins d'œil. Alors on a effectivement l'intérêt d'une enquête policière, l'intérêt d'une enquête analytique plurielle, parce que on creuse finalement l'inconscient de tous ces personnages. Elle creuse l'inconscient de son fils, de son petit-fils. Il y a même des références à la métempsychose. Est-ce que ces personnages, Jodie Foster, son fils, son mari, ne sont pas des réincarnation, si on veut, de personnes qu'elle voit en état d'hypnose et qui sont des personnes de l'occupation de Paris par les Allemands autour de 42-43 au moment des grandes rafles, etc. Donc tout ça est bien montré par des artifices de photographie et de montage qui sont assez réussis.
Mais ah voilà.
Je me suis demandé pourquoi, en regardant le film, j'avais toujours cette impression d'un boitement, une sorte de frustration. Et je me suis dit que des choses qui auraient mérité une scène pour les expliquer, on ne voit jamais cette scène arriver. D'autres choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées le sont quand même, ce qui fait quand même une lourdeur et puis un retard dans l'engagement du spectateur dans le film, si vous voulez. Je me posais très sincèrement la question et j'ai été voir les auteurs du scénario. Alors justement, je crois que le premier problème, c'est qu'ils sont trois. Alors, il y a d'abord comment...
C'est pas la première fois que tu dis ça.
Oui.
Que quand il y a plusieurs scénaristes, voilà. Quelquefois, on sent que...
On a interviewé, pendant les rencontres, Rosemary Guenada. Ouais, qui a réalisé avec deux autres personnes, voire une autre personne, de nombreux films...
Ils sont souvent trois ou alors deux.
Et quand on lui a demandé, c'est Mathieu d'ailleurs qui lui a posé la question de savoir si c'était pas compliqué de réaliser à plusieurs, il a laissé entendre que non. Et je pense qu'on comprend assez bien que la réalisation étant une tâche multitâche, multiforme, multifaculté, on voit pas d'inconvénient majeur à ce qui est un partage. Le scénario, et donc tu me rappelles que je l'ai déjà dit, je le savais pas, je l'avais oublié, mais effectivement, vous avez Anne Béret qui participe à l'écriture du scénario. Anne Béret qui est par ailleurs scénariste, romancière, dramaturge, extrêmement prolifique, et quand il y a une telle prolifération, je crois qu'il convient de se méfier. Il y a aussi Gaëlle Massé, donc qui est elle scénariste en collaboration déjà avec Rebecca Zlotowski et d'autres, donc une scénariste assez confirmée. Et Rebecca Zlotowski, qui a un vrai, je pense, des talents d'écriture, s'y est collée aussi. Si bien qu'on a un scénario à six mains, ce qui fait quand même trois têtes. Et six mains, trois têtes, eh oui. Et trois têtes pour faire une histoire, ça fait beaucoup, je trouve. Et si j'en ai déjà parlé, je pense que c'est parce que, effectivement... Ce qui est à rechercher prioritairement dans une intrigue, dans le récit d'une histoire, c'est une unité. C'est-à-dire, il faut que les bons éléments arrivent au bon moment, au rythme où il faut. Et ça, je pense que c'est assez difficile à réaliser à trois. En tous les cas, il me semble qu'elles n'y sont pas véritablement parvenues. Ce qui fait qu'on a un film qui tient, qui promet plus qu'il ne tient, quoi. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas par hasard, je pense, que tu parles de Hitchcock. Pourquoi pas? Voilà. Une espèce de Hitchcock. On voit bien intrigue policière et analytique en même temps. Mais tout le monde n'est pas Alfred Hitchcock. On s'en doute bien.
Exactement. Et donc, si ça ne s'est pas fait au scénario, ça ne s'est visiblement pas fait au montage non plus.
Voilà, je crois que ce n'est pas le montage qui est fautif. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Ouais, j'ai trouvé que, pour avoir dit aussi, dernière rencontre, discuter avec Noël Boisson, qui est une monteuse, à mon avis, XXL, donc avoir réfléchi passablement au montage depuis, je pense pas que ce soit un problème de montage, je pense que c'est un problème de rédaction de l'intrigue au départ.
Et je veux bien le livre. Donc c'est à voir, vie privée à Aubenas, il est également au Teil à Privas, et la semaine prochaine, il sera à Vals-les-Bains. On continue notre exploration.
Le CUP, c'est l'œuvre de ma vie.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le Président?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Le Président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien.
Vite et bien, l'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, qui avait fait Borgo, qu'on avait vu d'ailleurs pendant les rencontres du cinéma d'Europe, si je ne me trompe pas, avec Claes Bang et Sitz Babette Knussen, la présidente de Borgen. Il y a Xavier Dolan aussi et Michel Faux, le président Mitterrand lui-même. Alors, tu vas me dire, Cathy, tu vas nous dire, parce que le pitch n'est pas très excitant, mais paraît-il que le film l'est.
Ah oui, complètement. Ce qui est excitant, c'est un peu de savoir ce qu'est cette histoire, en fait. C'est vrai qu'en fait, on est en 83. François Mitterrand a lancé un grand concours d'architecture internationale pour le projet qu'il a de cube, alors de la Grande Arche de la Défense dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Donc, c'était très précis. À la surprise générale, c'est un Danois inconnu, complètement inconnu, qui gagne, qui s'appelle Otto von Spregelsen. Et ils vont chercher ce Danois directement chez lui, qui passe des vacances tranquilles avec sa femme, qui lui a répondu au concours en se disant « bon ». Voilà, peut-être, je sais pas, enfin bref. Et donc, on va le chercher chez lui pour venir...
Le France Travail de l'époque me laissera tranquille. J'ai déposé un dossier, maintenant c'était je peux partir en vacances.
Ouais, voilà. Et donc ça, c'est la partie très amusante, en fait, hein, de l'histoire qui est racontée. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour peut-être clin d'œil à Olivier, parce que c'est un...
livre de Laurence Cosset.
Exactement, bravo. Ça peut nous intéresser peut-être pour une suite.
Absolument, et on continuera à faire dans le danois alors.
Voilà, exactement.
Pour que les auditrices et auditeurs comprennent, vous continuez d'animer un livre, un film, mais pas sur cette radio, sur une radio, oserais-je dire concurrente, non, radio copine, RCF.
Et qui sait, nous reviendrons sûrement peut-être un jour. Voilà. Donc ça, c'est la partie amusante de l'histoire. Et ensuite, une fois cette partie, qui est tout le début du film, hein, on se lance dans tout un process de création, d'intention d'architecte qui a de grandes ambitions. Mais comme Mitterrand avait de grandes ambitions, donc ils étaient complètement raccord sur le projet. Sauf qu'il y a des aléas politiques qui arrivent, il y a dissolution de l'Assemblée nationale, l'arrivée de Juppé et de la cohabitation, et là, la révision complète des finances de ce projet. Et c'est là que, évidemment, cet architecte se voit totalement désemparé et va aller dans une sorte de dépression par rapport à tout ce qu'il avait envisagé. Enfin bon, ça c'est l'autre partie du film. Mais en attendant, il y a quand même plein de moments très savoureux. Il est accompagné par un architecte aussi en France qui est interprété par Swan Arlo, qui est génial. Il y a un super casting dans ce film, entre Michel Faux qui interprète Mitterrand, Xavier Dolan que moi j'aime beaucoup en tant qu'acteur. C'est évidemment un réalisateur que j'apprécie, mais je trouve qu'en tant qu'acteur il est très percutant, très juste, et là dans ce personnage il est génial. Et puis Swan Arlo également. Et puis tu as parlé des deux principaux, là il y a Claes Bang qu'on avait découvert particulièrement dans The Square, le film, la première Palme d'Or de Åslund, j'ai plus son prénom, et puis l'actrice aussi qui s'appelle Sids Babette Kunsen, qu'on voit pas mal tourner dans le cinéma français, et ça c'est la partie fictionnée hein, du film. Parce que ils ont complètement inventé le personnage de la femme de l'architecte qui n'est pas dans l'histoire d'origine. Hein. Ça, c'est la partie très fictionnée du film.
Parce que si on se posait la question, je reviens à Olivier qui disait « Qu'est-ce qui est vrai dans un film ?» Mais un film est un film, de toute façon.
Oui,
c'est
toute
une
façon,
fiction, donc on s'empare d'éléments. Enfin, je veux dire, non ? T'es pas d'accord ?
Ben, pas quand on joue justement sur la vérité, justement. Qu'un film soit un film, je veux bien, mais quand à l'intérieur du film, on te dit que ça, c'est pas un film, justement, ça commence à poser un problème, parce que tu te demandes où s'arrête le film, où commence la réalité. Voilà.
Brouillage des frontières.
Ouais.
Oui, bah après on sait qu'une adaptation est très librement permise.
C'est pas du tout gênant.
C'est pas du tout gênant. Et c'est vrai que dans le film, elle apporte une certaine, un peu d'air par rapport à ce. Il y a beaucoup d'hommes dans ce film en fait. Hein. C'est vrai qu'on a le président, on a le cabinet du président, enfin les différents sbires qu'il y a autour de lui. Il y a l'architecte, les différents architectes qui sont consultés à un moment. Donc c'était bien d'apporter ce rôle de femme, mais qui n'est pas que là pour faire potiche, qui amène vraiment un accompagnement dans la réflexion. De cet architecte dans son côté buté qu'il peut avoir, enfin ambitieux qu'il a, et elle essaie, elle, de trouver, enfin de faire une forme de médiation entre tout ça. Et ça amène une certaine, comment dire, plus légère, enfin pas légèreté, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas du tout envie d'avoir cette représentation féminine qui apporterait de la légèreté, mais bon voilà, une émulsion à l'ensemble. Et voilà, c'est un film aussi, ce qui est chouette aussi, c'est dans le film, c'est qu'ils ont vraiment travaillé avec le chef-op et une spécialiste des effets spéciaux pour reconstituer les différentes étapes aussi de fabrication de cette grande arche. Ils ne sont pas passés par des images d'archives, comme certains films des fois, que certains films utilisent, mais là, ils ont fait un vrai appel à des effets spéciaux. Et c'est chouette de voir les différentes évolutions. Et ça reste un film sérieux avec une forme, et je pense que c'est Michel Faux qui amène ça dans l'interprétation de Mitterrand, une certaine distance par rapport aussi à tout, et malgré la complexité du moment, de l'époque, et l'enjeu politique qu'il y a derrière, il y a quand même une petite forme d'amusement et de gaieté.
L'inconnu de la Grande Arche. C'est à voir au Teil et bientôt à Barjac. On enchaîne avec une séance spéciale en avant-première à Rosières.
Mesdames et messieurs, bienvenue en Éthiopie. Ce décor un peu fou, là-haut sur les plateaux, Adrien en est tombé amoureux. Et surtout, il s'est pris de passion pour une espèce en particulier. Le loup d'Éthiopie. Ce loup-là cache un secret. Un secret bien planqué, bien gardé, et qui n'a été mis à jour que récemment. Accrochez-vous.
Alors chut, voilà, on ne dévoile donc pas le secret. Mathieu, tu ne dévoileras pas le secret non plus.
Je vais essayer, oui.
Mais vous avez décidé à Rosières donc, de le proposer en avant-première. Pourquoi ?
Tout à fait, parce que déjà on a été en contact directement avec un des co-réalisateurs, donc il y a deux réalisateurs, c'est Baptiste De Turche et Adrien Le Saffre. Adrien, dont parle la voix off dans le film, on le voit un petit peu à travers les images. Baptiste, on le voit jamais, mais c'est le co-réalisateur qui sera présent du coup à Rosières samedi soir. Pourquoi on a choisi ce film ? Parce que bon, déjà, on aime bien les documentaires régulièrement, on en diffuse au cinéma. Ce qui nous a parlé dans ce documentaire, c'est la force de la nature face au changement climatique, face à beaucoup enfin, à l'espèce en voie de disparition aussi, qui est ce loup d'Éthiopie, le loup d'Abyssinie, un des derniers carnivores de ces hauts plateaux éthiopiens. qui du coup est en train de disparaître. Et la quête du coup de Adrien et Baptiste, c'était de raconter son histoire, d'être au plus proche de ces meutes de loups qui en fait ressemblent presque à des renards quand on voit les images. On est sur un loup qui est très petit, très agile. Qui a l'air très doux aussi, mais c'est un carnivore quand même, mais il mange des petits rats, des petites taupes qui sortent de la terre. Donc pour tout ça, on avait envie de diffuser ce film. Moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est déjà les belles images, ça aucun problème. On est en Éthiopie sur des hauts plateaux, c'est très beau, c'est très brut. On a ce contraste de lumière très forte avec les montagnes et les plaines qui sont très très peu, il n'y a pas beaucoup d'arbres, très peu de végétation, mais finalement très peu de vie aussi, hein. C'est assez rigolo de voir qu'il y a très peu de choses qui se passent. De plus en plus avec le changement climatique, on le sent à travers le film qu'il y a des bergers qui emmènent des pâturages de vaches dans ces endroits-là. Alors, est-ce qui du coup a un impact sur la vie de ce loup aussi, puisque du coup il est obligé de s'adapter à ces vaches qui l'empêchent de chasser correctement, parce que les vaches elles font du bruit, lui il chasse sans bruit pour essayer d'avoir sa nourriture. Donc ça c'est toute la première partie du film, vraiment la vie de ce qui se passe sur ces plateaux. Très vite après on passe sur ce fameux secret que je vais essayer de pas dévoiler. Je vais juste dire que c'est un contraste entre le fait que c'est un carnivore et qui en même temps a un rôle à jouer dans la nature elle-même. Il arrive à finalement à transmettre aussi grâce à quelque chose qu'il fait.
C'est ça le secret.
C'est le secret. D'accord, mais je le dis pas vraiment ce qu'il fait. Il fait quelque chose qui est anti-carnivore, un truc qu'on n'arrive pas à imaginer de la part d'un loup. On n'est pas très loin. Pas très loin. Mais je dirais pas vraiment ce que c'est. Allez voir le film pour découvrir ce beau secret.
Et n'allez pas voir la bande-annonce. Du coup.
Bah du coup oui, alors la bande-annonce révèle très vite ce que c'est le secret.
Mais j'imagine que ça ne tient pas que là-dessus, c'est
non,
pas une intrigue.
Non, non, c'est pas, on n'est pas sur... Non, de toute façon c'est oui, du documentaire, oui. C'est juste la quête d'arriver à avoir ces images qui guident tout au long le film. Est-ce que finalement les réalisateurs vont réussir à capter ce moment, qui est un moment assez rare a priori de la part de ce loup. Mais
c'est pas un clin d'œil à Hitchcock, par exemple.
Non, là, non. Non, on n'est pas là-dessus.
Et à Michel Bertrand, peut-être. Non, mais pour La Vallée des loups, pour Marche avec les loups, et toute sa démarche qu'il a faite aussi, de vouloir capter des images qu'il n'arrivait pas à capter.
Oui, alors on est un peu sur ça. Et d'ailleurs, les réalisateurs se sont beaucoup entourés de chercheurs sur place pour justement apprendre à comprendre ces loups, comment ils se déplacent, comment ils vivent. Et ces fameux chercheurs leur ont parlé de ce secret qui même eux avaient du mal à observer. Et du coup, les réalisateurs étaient vraiment dans cet objectif-là. On est vraiment sur un voyage au cœur de la nature, à la fois discret, intime et poétique. Voilà.
Et donc, ce sera avec Baptiste, c'est ça ? C'est lui qui sera
Baptiste de Turche.
Qui sera là, donc, en avant-première, samedi.
À noter, d'ailleurs, qu'il sera avec nous à 18h et qu'il enchaîne à Ruyons.
À 20h30. Et il ne fait pas que ça, puisqu'il enchaîne encore le lendemain. Il sera à Priva, au Vivarais,
tout
dimanche.
À fait. Autre
documentaire que vous allez diffuser, c'est ce soir, c'est
oui,
ça ?
Oui, ce soir, tout à fait.
Une route à soi.
Une route à soi. Donc là, c'est pas du tout le même style de documentaire. On est dans le cadre de Courte Escale. C'est un festival organisé par Allo la Planète, qui est une web radio qui est joyeuse. Chaque année, ils font une sélection de documentaires plutôt amateurs, on va dire, avec chacun ses objectifs. Ici, une route à soi, on est plutôt sur un périple à vélo. La réalisatrice Elaïs Bandini, qui sera aussi présente, nous raconte à travers son voyage entre la France et le Japon. Donc elle a décidé de partir en vélo pour rejoindre le sud de Montpellier jusqu'au Japon. Donc pendant 15 mois, on suit son périple. C'est une sorte de carnet de voyage, un road movie sur un vélo.
Un bike movie. Non,
ouais.
Un road, non.
Oui, ouais, road movie.
Ça, ouais. Road movie.
Un road movie, ouais.
Oui, pardon.
Mais c'est pas tout le temps des routes bien praticables pour son vélo, malheureusement. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui se passe. On la suit, elle, et je pense qu'il y a quelqu'un avec elle aussi, parce que il y a plein d'images qui sont filmées par quelqu'un d'autre. Donc du coup, je pense qu'elle est pas toute seule vraiment.
Bah, elle nous le racontera ce soir.
Ben, exactement, ça serait une question à lui poser ce soir. Tout à fait. Et donc c'est une épopée, on va dire, qui est là surtout pour la. Elle se questionne sur son quotidien, sur ses rêves, la poursuite du bonheur et pour se retrouver elle-même. Bon, c'est tous ces sujets-là qui sont abordés là-dedans avec légèreté. Elle parle avec sa voix. C'est elle qui raconte son histoire à travers une voix off. Et on la voit parler des fois face caméra quand elle se fait des selfies sur son vélo. Voilà, les souffrances, les doutes, l'accomplissement, c'est tous ces sujets-là qu'elle avait envie de raconter à travers ce road movie en vélo.
D'où le jeu de mots, une route à soi, soi.
À soi, soi-même, et la soi parce que c'est la route de la soi finalement, oui. Qu'elle suit tout au long de son périple.
À découvrir donc ce soir au cinéma Le Foignet de Rosières.
Merci.
Merci beaucoup Mathieu. Dans l'agenda, on note que le film de Abbas Kiarostami, Close Up, qui devait être projeté ce soir à 18h30, est annulé. Donc il n'y a pas ça, contrairement à ce que dit encore Le Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, non, ça ne l'est pas. Et par contre, dimanche, il y aura bien la soirée Océan Indien avec Disco Africa et Tropique de la Violence, en partenariat avec le MRAP, qui seront donc deux films autour de l'Océan Indien qui seront projetés au navire d'Aubenas. Et puis encore au navire, décidément, à bout de souffle, sur grand écran, ça ce sera lundi.
Voilà. Oui, si on veut voir si les gens ont vu Nouvelle Vague,
exactement.
Ils peuvent aller
redonner envie.
Encore un clin d'œil.
Encore un clin d'œil. Et si je peux me permettre,
mais
Sophie,
on
ne
fait pas des films qu'avec des clins d'œil.
Non, j'ajouterai la séance ciné-apéro dimanche à Lussas à 11h avec un film américain, mais qui pourrait tout à fait être un film anglais, qui s'appelle Ghostlight.
Merci beaucoup. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission et merci à vous tous autour de cette table. On se retrouve vendredi prochain encore pour un Cinémascope. Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà.